France Inter, le 18-20.
La révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants, disait le révolutionnaire Pierre Vergniaud. Il en sait quelque chose, il est mort en 1793. On va pas ce soir débattre sur le caractère révolutionnaire du mouvement des Gilets jaunes, encore que d'ailleurs la nature du mouvement reste décidément toujours à définir. Mais la question est de savoir si le mouvement dévore ses enfants. Cette question-là, elle reste. Que sont devenus les ronds-points? Que sont devenus les Gilets jaunes, canal historique en quelque sorte? Et même d'ailleurs les revendications initiales, tout était simple. Finalement, au départ, pouvoir d'achat, impôts, essence, accès aux services publics. Et plus on avance, moins c'est clair. Plus les samedis sont un peu comme un mouvement d'inertie sans rien au bout, ponctué d'excès, des excès impossibles, des insultes, évidemment, à caractère antisémite. On en a parlé, on y reviendra forcément, des insultes tout court, des caillassages aussi et des cassages. Alors est-ce que le mouvement a muté? Est-ce que le refus de le structurer au départ annonçait sa transformation en un mouvement au fond antidémocratique? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le qualifier aujourd'hui? Vous nous le direz. Regardez les leaders d'ailleurs désormais, les anciens leaders, Jacqueline Mourot menacée de mort quasiment, Ingrid Levavasseur insultée parce qu'elle a essayé une liste pour les européennes. Vous remarquerez au passage que ce sont des femmes toutes les deux, les Drouet, les Nicole, les Chalençon sont encore là mais se gardent bien de tenter une quelconque structuration. Ce qu'on entend d'eux d'ailleurs parle plutôt finalement d'envie de chaos. Alors que sont devenus ces fameux ronds-points? Que sont devenus les revendications de départ? C'est ce qu'on essaye de voir ce soir avec les invités qui ont partagé déjà avec nous des téléphones sonnent autour des cahiers de doléances, autour des réflexions, autour du début de ce mouvement des Gilets jaunes. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Allez, Laurence, c'est à vous de démarrer ce téléphone sonne. Bonsoir, Laurence, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Laurence, on vous écoute.
Oui. Allô?
Allez-y, on vous écoute, Laurence.
Oui, alors voilà. Moi, j'ai appelé parce que donc je suis le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, mais plus comme observatrice, parce que ça m'intéresse, c'est surprenant, c'est étonnant. Et puis là, il y a ce truc, justement, cette montée en même temps de l'antisémitisme qui fait peur. Moi, j'ai même plus envie d'écouter les informations. Et je me demande s'il y a un lien. Si ça a été récupéré ou si c'était comme ça depuis le départ et c'est gênant, il y a un malaise de quelque chose pourtant qui était plutôt légitime en fait, qui était compréhensible en tout cas.
Est-ce qu'une cause juste peut se transformer en un mouvement peut-être dévoyé? On verra si c'est le terme exact. Avant de vous présenter les invités, je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute, Jean-Pierre. Est-ce que vous dites l'inverse de Laurence? Ça nous intéresse de vous avoir l'un après l'autre. Allez-y.
Oui, tout à fait. Bon, moi, mais ça m'intéresse. Pourquoi? Bon, parce que je suis toujours gilet jaune et convaincu donc de le rester. Mm-hmm. Et comment dirais-je, les propos antisémites, j'en ai, comment dirais-je, avant ce mouvement, j'en ai bien sûr entendu déjà. Mais comment dirais-je, sur ce rond-point, jamais, jamais, rond-point de Lure, hein, donc roi pour le nommer, n'a jamais été aucun propos antisémite. Quelques mauvaises paroles peuvent vous ne pouvez pas maîtriser toutes les personnes. Je dirais que tous les samedis, il y a quand même les ex-renseignements généraux qui sont là donc depuis le début du mouvement, qui pourront éventuellement témoigner donc de mes propos que jamais il y a eu, surtout et qui sont attenants, présents sur le rond-point. Jamais il y a eu des propos antisémites.
Et on vous croit sur parole, Jean-Pierre, sur votre rond-point, évidemment. La question est, qui rejoint finalement celle de Laurence, c'est est-ce que vous vous retrouvez toujours dans ce mouvement comme vous vous y retrouviez lorsque vous avez décidé d'y rentrer? Ou est-ce que vous avez parfois le sentiment que vous êtes dépassé par des choses qui ne concernent plus les revendications de départ?
Non, que géographiquement, nous avons été faire une manifestation sur Vesoul, qui est la plus grosse ville de cette région, qui fait 30 000 habitants au maximum. Non, nous sommes toujours convaincus donc de cette nécessité de dire qu'il faut affirmer donc notre mal de vivre. Ça, c'est ma foi certain. Mais donc, je condamne au premier titre toutes ces propos qui sont tout à fait scandaleux, antisémites. Moi, j'ai ma propre mère qui a été mise en rétention à l'âge de 29 en 39. Elle avait 10 ans. Je me verrais mal de dans un mouvement qui soit insultant envers juifs, musulmans, tout ce qu'on veut bien.
Non, donc c'est une petite minorité. Pas. Donc ce que vous dites, Jean-Pierre, c'est quoi?
Mais ce sont des gens incontrôlables. Moi, j'ai habité pendant pratiquement 20 ans à Mulhouse. Donc, dans un quartier, comment dirais-je, cosmopolite, qui n'a pas entendu des propos à mettre sur le compte de l'idiotie que de l'intelligence.
Merci beaucoup Jean-Pierre et merci à Laurence aussi parce que ça nous fait une belle entrée en matière, ces deux visions de ce qu'est ce mouvement et de ce qu'il est devenu pour répondre à vos questions et pour entamer et poursuivre cette discussion autour de la table. Édouard Le Cerf est là, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA. Vous allez nous dire ce que l'opinion, telle que vous la sondez, sent pour l'instant. Et bonsoir Yvan Lubranevski. Vous êtes maire des Molières, président des maires ruraux de l'Essonne. Et je voudrais préciser qu'on bonsoir. S'est déjà rencontrés tous autour d'un téléphone sonne précédemment, justement pour parler de ces choses. On était à l'époque beaucoup plus, Yvan Lubranevski, notamment sur les revendications sur les cahiers de doléances. Est-ce que d'abord chez vous, est-ce que ça existe encore en fait? C'est-à-dire est-ce que cette effervescence, ce bouillonnement dont vous nous parliez, il existe encore ou est-ce que tout ce qu'on a vu ces derniers temps, que nous a décrit Laurence par exemple, a un peu étouffé tout ça?
Oui, on sent qu'il y a une situation d'attente. L'attente est forte chez les citoyens. Dans la phase des cahiers de doléances, ils ont bien compris qu'on passait le 14 janvier d'une séquence où les maires avaient ouvert les mairies pour recevoir les doléances et qu'on était passé sur le grand débat national. C'est-à-dire que nous, on reçoit plus vraiment de doléances en mairie, mais on les voit, ils nous disent aussi donc inscrire leurs doléances sur
Vous
le site du grand débat.
Vous avez toujours des ronds-points ou pas? Vous avez toujours des ronds-points?
Il y en a toujours, ceux-là n'ont pas cessé d'être. Après, ça s'est un petit peu vidé, effectivement, par endroits, et c'est les signaux qu'on a. Mais ce qui est important, surtout, c'est que on a organisé, nous, 4 débats départementaux. On a le 4e ce soir, porté par l'Association des maires ruraux de l'Essonne, pour faciliter les choses. On a voulu prendre les dates très très vite, et je pense vraiment qu'on a eu raison, parce qu'on voit de débat en débat, quand même, un petit peu moins de monde à chaque fois. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, une situation qui s'enlise et probablement une position d'attente pour beaucoup de citoyens.
Édouard Le Cerf, est-ce que c'est des choses qu'on retrouve aussi lorsque vous sondez autour de vous? Je reviens sur ce que disait Laurence. Est-ce qu'une juste cause, parce que c'est ce qu'elle disait au départ, peut se transformer au fond, peut avoir une manifestation qui est dévoyée par rapport à la juste cause?
Mais absolument. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que s'il continue à avoir du soutien dans les intentions qu'il y avait, l'intention qu'il y avait derrière ou qu'il y a derrière le mouvement des Gilets jaunes, les expressions sont de plus en plus questionnées, naturellement. Donc cet écart entre intention et expression est de plus en plus fort, et naturellement, les Français, un certain nombre de Français se retirent un tout petit peu du soutien qu'ils exprimaient à l'égard de ce mouvement. Il y a aussi la différence entre les motivations à l'égard du mouvement et les modes d'action. Alors, c'est vrai que c'est aussi la conséquence d'un mouvement qui dure et d'un mouvement, on va dire, qui se réduit d'une certaine manière dans ses expressions. Il se réduit, il y a moins de monde. On utilise souvent cette image-là, l'image de quelque chose qui était un fleuve puissant. On parlait tout à l'heure de canalisation, un de vos éditeurs parlait de canalisation, effectivement. Un fleuve puissant qui charrie beaucoup de choses, des choses très positives, des vraies colères, des vraies douleurs, des vraies choses que les gens ne voulaient pas dire ou ne voulaient pas voir, ne voulaient pas entendre. Aujourd'hui, il y a un peu moins d'eau, j'allais dire, tout simplement, et qu'on voit émerger un certain nombre de choses qui sont toujours charriées par ce genre de mouvement, naturellement, qui existent. Un de vos auditeurs le disait également, ça existait, ça préexistait. Mais aujourd'hui, ça devient un tout petit peu l'expression la plus visible de ce qu'est ce mouvement. Mais derrière, il y a encore un soutien qui est là. Encore une fois, il y a à peu près un Français sur deux qui dit encore soutenir ce mouvement. Mais c'est vrai qu'il y a eu un retrait parce que les modes d'expression, ou parce que ce que l'on voit de ces modes d'expression, est aujourd'hui avec un certain nombre de caractéristiques dans lesquels ils ne se reconnaissent plus.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a, alors on a eu Jean-Pierre tout à l'heure au téléphone, il y a encore donc des gilets jaunes, j'ai appelé ça tout à l'heure le canal historique, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis le 17 novembre, mais est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en face d'autres gilets jaunes en fait? Est-ce que ce qui s'exprime dans la rue n'est plus du tout corrélé avec ce qui s'est passé sur les ronds-points et ce qui se passe éventuellement dans les débats ou sur les cahiers de doléances, Yvan Luvraneski? Ce qui sont décorrélés, en fait.
On a plus peut-être des jusqu'au boutistes, mais ce qui est intéressant à relever, c'est que la question du 50% de soutien, c'est parce que les motifs, en fait, qui ont créé ce mouvement et qui, évidemment, on a un mouvement social qui va au-delà du simple mouvement des gilets jaunes, les motifs n'ont pas cessé. Et même, ils ont tendance à se renforcer, c'est-à-dire, nous, au niveau du réseau des maires ruraux de France, on a des collègues qui nous font remonter encore actuellement des trésoreries qui déménagent, des problèmes avec les hôpitaux, des problèmes avec les lignes de train qu'on diminue ou qu'on arrête, des problèmes également avec l'école. Cette semaine, les députés ont voté un ensemble de lois autour de l'école qui va faciliter à la rentrée prochaine la fermeture de petites écoles dans les villages. Donc toute cette France périphérique qui s'est exprimée à l'occasion de ce mouvement, on est en train de l'écraser un petit peu plus. Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas avoir la décence de faire une pause, au moins pendant le grand débat, parce que effectivement, les coûts, le monde rural continue à les prendre.
Mais la question c'était, est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on entend encore ça? Est-ce que le mouvement tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on le voit s'exprimer tous les samedis et parfois de manière extrêmement brutale, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que ce mouvement-là n'a pas tué l'autre, en fait, celui que vous décrivez, celui des services publics, celui des cahiers de doléances?
C'est certainement décevant pour les citoyens, mais on le voit bien. Monsieur Le Cerf parlait des 50% des Français qui soutiennent encore. Ils soutiennent encore parce qu'ils se raccrochent à cela. Aujourd'hui, ils ont identifié que c'est un élément important dans le rapport de force. On l'a vu au mois de décembre dans les premières annonces du président Macron. Donc, ce qui était suite quand même à des Champs-Élysées dont les images ont fait le tour du monde. Voilà. Et le rapport de force, finalement, les gens comptent un petit peu dessus, vu qu'en plus, dans le grand débat, on leur a pas donné réellement une issue, où ils ne savent pas sur quoi ça va déboucher. Donc aujourd'hui, ils se raccrochent à ça en se disant il faut que ça change, il faut qu'il se passe quelque chose, et c'est peut-être ça qui peut nous aider.
Édouard Le Cerf, avant qu'on retourne au standard, allez-y.
Oui, il y a naturellement dans la question de la sortie que vous exprimez, mais ça n'est pas seulement une question qui est posée sur le gouvernement ou sur la manière dont le grand débat va permettre une sortie, il y a aussi une question qui est posée sur ce mouvement des Gilets jaunes qui, d'une certaine manière, a exprimé sa difficulté à dire quelle va être la sortie, quelle va être l'issue de tout cela. Et donc, naturellement, ça frustre un certain nombre de Français de voir que ces éléments ont été mis sur la table, mais que pour autant ceux ou un certain nombre de ceux qui portent le mouvement ne donnent pas les clés pour pouvoir en sortir, que ce soit une issue électorale, une issue de discussion, une issue de...
Ça, personne ne donne les clés. On disait qu'il n'y a pas de clé, effectivement, vous le disiez, Yvan Luvraneski, du côté du gouvernement pour la sortie, mais il n'y a pas de clé non plus dans la rue de la part des Gilets jaunes pour savoir comment on va sortir de là, puisque dès qu'on essaye un peu de structuration, ça vole en éclats parce que personne n'en veut réellement.
Personne n'en veut parce que c'est un des dangers, hein. C'est un danger pour le maintien. Le maintien de la dynamique des Gilets jaunes fonctionne aussi parce que, justement, essayer de canaliser les choses, c'est donner prise à la discussion, donner prise au dialogue, mais donner prise à quelque chose, à un mouvement qui garde aussi sa force parce qu'il est informe.
Bonsoir Pierre, vous êtes à Lyon, Pierre, et soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, moi, je pense que le mouvement, tant que des Gilets jaunes, il évolue, il a évolué. Moi, au tout départ, je n'y suis pas allé, hein, je n'en ai pas fait partie, parce que c'était plutôt une revendication fiscale. Bon, moi, je ne suis pas retraité, je travaille, donc la hausse de cette CSG, elle ne me concernait pas. La hausse des taxes pour l'essence, je ne conduis pas. Donc finalement, c'était plutôt social, fiscal, économique, et c'est vrai pour les retraités, donc en très grand nombre, et disons des gens en périurbain. Suite aux deux week-ends donc de violence, où Emmanuel Macron a finalement, et je trouve que les médias dans l'ensemble ont été bien gentils avec les mots, il n'a pas fait des annonces, comme je viens de l'entendre encore, il a cédé, il a capitulé, je crois qu'il faut le dire. Il a cédé parce qu'il y a eu, c'est vrai, donc deux week-ends de très grande violence. Mais comme il a cédé, ça a donné donc aussi à tous les gens eh bien une volonté, bah, disons, qu'on aille plus loin. Et moi, j'ai commencé à m'y mettre, mais pas pour des raisons économiques, mais disons pour des raisons qui sont très politiques. Et là, depuis 4-5 fois...
C'est-à-dire, pardon, mais c'est-à-dire... Parce qu'au fond, voilà, l'issue, c'est quoi, Pierre ? Votre issue à vous ?
Pardon ?
Votre issue à vous, c'est quoi, en fait ?
Moi, de toute façon, donc mon issue, moi, ce que je demande, bon, je fais partie, j'y vais, je mets un gilet jaune, mais c'est pas un syndicat, on n'a pas une carte, c'est pas un parti politique. Moi, ce que je demande et ce que j'entends, j'y suis allé il y a 15 jours, le samedi 9 mars, il y avait énormément de monde à Lyon. C'était simple. Quand on entend des fois certains chroniqueurs qui disent que les Gilets jaunes ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est un mensonge, excusez-moi, c'est un mensonge politique, un mensonge médiatique.
Mais vous voulez quoi alors ? Pardon, allez-y.
La proportionnelle intégrale, le référendum d'initiative citoyenne, plus de pouvoir au Parlement, et puis, bon, et d'autres demandes. Et je dis simplement, le samedi 9 mars, à Lyon, moi ce que j'ai beaucoup entendu le long de l'axe nord-sud, c'était, mais je vous l'assure, je le jure, Benalla en prison. Mais c'était incroyable. Et bon, donc moi je trouve qu'on a une issue, il faut qu'il y ait une réforme institutionnelle très forte qui donne plus de pouvoir au peuple avec ce référendum d'initiative citoyenne et donc des représentants qui ne soient pas moins nombreux, c'est une arnaque de Macron, c'est simplement qu'il représente totalement tous les courants de pensée et tous les gens. Il faut qu'il y ait des ouvriers, il faut qu'il y ait des paysans, il faut qu'il y ait plus de femmes, etc. etc.
On a compris sur le fond...
C'est ce qu'ils veulent maintenant.
On a compris sur le fond, Pierre, c'est ce que vous voulez, vous, c'est ce que vous dites. Parce qu'après, quand on dit les gilets jaunes, moi j'ai toujours un peu de mal à savoir exactement où et de qui on parle. Mais je voudrais, pardon, répéter ma question. Par quel biais ? Ça veut dire qu'on est toujours dans la rue jusqu'à ce que cette réforme ait eu lieu, c'est ça l'idée ? Pourquoi est-ce qu'elle peut pas passer par les cahiers, par les grands débats, par exemple ?
Ah mais moi j'y suis allé, non mais je le dis franchement, je suis allé à la mairie du 5e, j'ai écrit mon, même si je pense, et je l'ai écrit, même si je pense que cela ne servira fondamentalement à rien, parce que je pense qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont déjà tout décidé, puisque n'oublions pas que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait 10% de proportionnel, etc. Donc à mon avis, tout est décidé globalement, c'est sur les marges que peut-être il bougera, mais que si, et je ne suis pas le seul à le dire, même certains chroniqueurs disent que s'il n'y a pas un certain électrochoc vers le 15 ou le 20 mars de la part du président de la République, bah, les gens seront très déçus, très très déçus. Alors je ne sais pas comment ça peut finir, je crois qu'il faut que ça se calme tout ça de tous les côtés, mais il faut que les revendications qui sont politiques et institutionnelles soient mises en place. Il faut plus de pouvoir pour la population, il faut qu'elle soit bien mieux représentée au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il faut même... Non mais écoutez...
J'ai compris Pierre, pardon, et je veux surtout pas vous interrompre, mais je veux pas qu'on refasse le débat du grand débat en fait, parce que c'est pas le but du téléphone sonne de ce soir.
Aujourd'hui, qui peut continuer dans cette affaire Benalla ? C'est le Sénat. On a une assemblée donc nationale...
Et je veux pas qu'on mélange tout non plus, pardonnez-moi Pierre, mais vraiment...
Il n'a plus le pouvoir donc de faire une commission d'enquête.
Voilà, je veux surtout pas qu'on mélange tout et qu'on se trompe de thème dans le téléphone sonne de ce soir. Il y a des choses qu'on aborde dans d'autres moments, c'était pas le thème de ce soir. Moi ce que je voudrais qu'on essaie de comprendre ensemble, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Est-ce que ce mouvement a autant de sens qu'il en a eu ? Est-ce que les revendications des uns sont finalement étouffées par celles des autres ? C'est intéressant ce qu'on entend Édouard Lecerf de la part de Pierre, parce que lui, voilà pourquoi il est dans la rue, mais si on fait ce sondage avec trois personnes différentes, regardez, on est très différent de ce que disait Jean-Pierre, qui lui est toujours sur son rond-point. Et c'est là, pardon, que moi j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond quand même, non ?
En rond-point ? Absolument. La force, encore une fois, du mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement attrape-tout. On vient de l'entendre. Mm-hmm. C'est-à-dire que, et avec une forme d'opportunisme pour certains, on a vu des choses les pires, mais aussi d'opportunisme pour un certain nombre de revendications dont certains se sont dit. Ils ont entendu effectivement qu'il pouvait avoir de la part du pouvoir le fait d'entendre et donc de bouger, et donc se disent, voilà, mais Il y a à la fois, c'est un mouvement qui attrape tout, mais qui donne aussi le sentiment de ne rien lâcher. Quand je dis ne rien lâcher, oui, ça peut être une forme de résistance. On ne lâche rien, c'est-à-dire qu'on est ferme dans nos revendications. Mais encore une fois, le fait de ne rien lâcher, ça veut dire aussi de ne pas entrer dans la négociation. Donc, en gros, vous avez un effet boule de neige. Dès le départ, encore une fois, les revendications étaient nombreuses, multiples, partaient un peu dans tous les sens, même si on les a un peu canalisées en expliquant qu'il y avait un élément institutionnel, une dimension économique, une dimension sociale, une dimension politique, etc. Oui, ça existait, mais aujourd'hui, il est bien difficile de pouvoir dire comment est-ce que ces éléments-là vont s'agréger, trouver une sortie, trouver une solution. Alors, le grand débat, je ne dis pas c'est la panacée, mais en tout cas, ça a été une des réponses, et les Français, d'ailleurs, de manière intéressante, lorsqu'on les interroge, nous disent « ce grand débat, on attend de voir ». Ils sont relativement dubitatifs sur le fait que ça puisse donner quelque chose, mais ils disent aussi les gens qui soutiennent les Gilets jaunes, dont eux-mêmes peuvent faire partie, eh bien il faut qu'ils participent en quelque sorte. Là, il faut non pas lâcher, mais en tout cas revendiquer, mettre en avant, continuer et discuter, parce qu'il faut trouver une solution. Sans solution, effectivement, on continue à tourner en rond, même si ça dit quelque chose, ça ne produit rien.
Yvan Lebrandeschi, je posais la question tout à l'heure en introduction, est-ce que la révolution a dévoré ses enfants? Est-ce que le mouvement, sur la forme, a changé de nature? C'est peut-être ça qui est très compliqué à lire aujourd'hui. Ce qu'on voit depuis quelques samedis dans la rue, ce qu'on a vu samedi dernier particulièrement, montre un changement dans le ton également. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous sentez, vous, à votre niveau?
Oui, l'expression est très diffuse, variée, et de plus en plus, et c'est ça qui est compliqué. Même s'il y a des revendications qui sont toujours brandies, effectivement, comme le référendum d'initiative citoyenne, il en reste pas moins, et ça, on l'entend également dans les débats, notamment quand on fait des débats avec des systèmes World Café, où tout le monde peut travailler sur plusieurs thèmes, et donc essayer un petit peu de sortir de la matière. Le malaise démocratique, il reste profond. D'ailleurs, du point de vue des maires, nous on a une proposition, c'est de commencer à regarder 2020. On parlait des maires qui démissionnaient, souvent d'ailleurs pour des questions de difficultés à se confronter à la démocratie, et notamment dans l'intercommunalité ou en lien aussi avec les représentants. Ce sont les premiers représentants, les maires et les conseillers municipaux. Et on va pas tarder, fin mars en tout cas, on vous prépare quelque chose, c'est-à-dire vraiment un appel aux citoyens pour leur dire investissez la commune et faites. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été...
En creux, ça veut dire quoi? Ça veut dire investissez la commune. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire, les ronds-points, on a compris, ça voulait dire ça et ça, mais ce qu'il faut, c'est rentrer dans la vie et rentrer dans la vie de la commune, dans la vie de la cité, dans la vie de l'État. Est-ce que c'est ça aussi que ça veut dire?
C'est faire.
Parce que moi, ce que j'entends dans la rue depuis plusieurs samedis, c'est qu'on n'y va pas. À chaque fois que quelqu'un essaye de rentrer dans quelque chose de structuré, préparer un mouvement pour les Européennes ou quoi que ce soit d'autre, immédiatement, il est exclu du mouvement, en fait. Donc, est-ce que vous êtes sûr d'avoir de savoir à qui vous parlez dans ces cas-là, si vous parlez aux gens des ronds-points?
Et parce que quand on est sur des questions nationales, élections européennes, évidemment aujourd'hui le logiciel est grippé, ça fonctionne pas. On a complètement décroché avec nos représentants. Si on veut reprendre lien avec la démocratie de façon certaine, on commence effectivement par la commune.
Donc entrer au conseil municipal, ça peut marcher selon vous?
Mais oui, parce que plus il y aura d'air, plus on ouvrira les portes et les fenêtres dans le conseil municipal, plus il y aura de citoyens associés à la vie localement, plus par contagion les espaces supra et intercommunaux vont être obligés de se mettre également à la démocratie.
Eh ben Mathieu, je vais vous poser la question directement. Vous aurez le droit de poser votre propre question, évidemment, mais je voudrais en poser une aussi. Est-ce que vous iriez, vous, Mathieu, vous pensez que l'esprit initial des Gilets jaunes est toujours là? Est-ce que vous vous engageriez? Est-ce que vous iriez dans un conseil municipal? Est-ce que vous vous batteriez dans ce genre de cercle-là?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que j'irais m'engager donc en politique à l'échelle communale?
Y compris localement, c'est ça.
Localement. Ce serait estimer que effectivement on ait un pouvoir qui puisse répondre aux besoins, je dirais, que manifestent les Gilets jaunes, alors que il me semble qu'aujourd'hui les enjeux ne sont plus, comment dire, à l'échelle de la commune, enfin si je puis m'exprimer ainsi, c'est que les questions qui concernent les Gilets jaunes, qu'on voit bien, c'est le pouvoir d'achat, c'est aussi la mobilité, c'est pouvoir accéder à l'emploi dans les pôles urbains. La question de la mobilité, elle n'est pas, comment dire, de la compétence de ces communes. Donc, oui. À moins d'être dans la commune, d'organiser, d'aider à organiser, à ce que les Gilets jaunes s'organisent. Vous voyez, moi, j'étais à un rond-point il y a une petite heure, parce que je suis en déplacement, et c'est, moi, il me semble que les préoccupations des Gilets jaunes sont toujours les mêmes. Les personnes que j'ai croisées à ce rond-point, c'était les mêmes que j'ai croisées il y a déjà quelques temps. Et après, les discours, les prises de conscience évoluent. On se rend compte que quand on va à la pompe à essence, on est tout seul avec sa carte de crédit, et que peut-être, finalement, le véritable pouvoir que nous aurions collectivement, ce serait d'organiser nous-mêmes une politique de transport, une organisation des transports avec nos véhicules, produire des services de covoiturage, de partage. Vous voyez, je pense que peser économiquement dans le paysage que M. Macron tente à dessiner pour nous, ce serait une réponse, politique, qui, justement, pourrait peser face à des lobbies comme le pétrole, comme Renault, etc. Donc, je pense qu'effectivement, mon engagement, je le verrais plutôt dans ce type d'organisation. Et d'ailleurs, je serais ouvert à ce qu'un débat puisse s'ouvrir sur ces questions de mobilité et de transport qui sont délaissées, en fait, depuis tant de temps, alors que M. Macron, qui est un peu le président de l'ubérisation de la société, fait tout en sorte pour cacher ce débat, mais je crois que c'est vraiment le débat aujourd'hui qui nous concerne tous.
Merci beaucoup.
Le transport et la mobilité, merci. C'est une affaire de citoyenneté, madame.
Oui. Merci Mathieu, merci beaucoup, on vous a entendu. Yvon Lubranevski, c'est intéressant vraiment ce que dit Mathieu. D'abord parce que ces questions-là, effectivement, sont entières. Transport, mobilité, il le dit, elles étaient là déjà au début et même avant. Mais voyez, localement, pas sûr de servir à quelque chose.
Oui.
Plus haut, pas sûr de servir à quelque chose non plus, on veut pas y aller. Donc, on veut le faire que nous-mêmes. Et au fond, ça rejoint ce qu'on disait au début sur ce mouvement qui continue tous les samedis à tirer des choses très éparses, en fait, mais qui n'a confiance en personne, ni en vous les petits, ni en plus grands.
C'est-à-dire qu'on peut pas attraper une main s'il n'y a pas une main tendue. Aussi, peut-être, je ne sais pas où habite Mathieu, mais peut-être que son conseil municipal, son maire n'a pas exprimé l'envie de co-construire avec les citoyens. C'est encore un mouvement qui est assez récent. Probablement que la politique fonctionnera comme ça dans quelques années, mais pour l'instant, nous ne sommes pas effectivement très 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 nombreux. Et en fait, Mathieu parle exactement de la même chose, même si au début, dans sa réponse, il refuse.
Et c'est ça qui est fort intéressant, parce que vous parlez de la même chose, mais la façon de le régler, vous dites il faut rentrer dans les institutions, et Mathieu dit il faut surtout s'éloigner des institutions.
Aujourd'hui, je suis la première commune qui a signé avec une appli de covoiturage. Tout ça, on l'a fait effectivement sans l'aide de l'État, on l'a fait avec des citoyens. On a aujourd'hui sur 2000 habitants 120 covoiturages par mois qui sont comptabilisés, sans compter ceux qui se sont rencontrés à cette occasion et qui maintenant ne passent même plus par l'appli. Et toutes ces initiatives locales, effectivement, peut-être qu'elles n'existent pas chez Mathieu, mais pourquoi ne pas les construire lui-même? C'est justement un levier qui est important. Encore faut-il l'identifier, c'est ce que je disais. On ne peut pas attraper une main si la main n'est pas tendue.
Édouard Le Cerf.
C'est intéressant d'ailleurs la façon dont se positionne un certain nombre de Gilets jaunes, ou en tout cas ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait qu'il y a des élections qui arrivent, ce serait peut-être l'occasion de clarifier un certain nombre de choses. Mais justement, alors oui, il y a ce premier aspect qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire que non, on ne veut pas rentrer dans le système qui est ce système démocratique qui a failli pour un certain nombre d'entre eux, qui n'est pas représentatif, etc. Malgré tout, il faut aussi voir qu'il y a d'autres éléments, sans doute d'autres éléments qui motivent le fait de ne pas vouloir rentrer par ce système démocratique. C'est vrai que rentrer dans un système électoral, ça veut dire avoir des têtes de liste, donc ça veut dire avoir des représentants, ça veut dire s'accorder sur un programme qui forcément fait des choix, ça veut dire aussi se mesurer, se comparer, ça veut dire se compter, ça veut dire qu'à un moment, face à d'autres, on va pouvoir se compter. Et on parlait tout à l'heure des 50% de soutien ou autrefois des 70% de soutien. Lorsqu'on passe de ça à un pourcentage exprimé dans les urnes, c'est un peu plus compliqué. Donc,
ça avait été calculé. Le pourcentage d'un éventuel, une éventuelle liste Gilets jaunes européennes était extrêmement bas et favorisait d'ailleurs au fond Emmanuel Macron, puisque les voix étaient prises.
Alors, il y a aussi cet effet-là, sans doute, qui retient un certain nombre de volontés. Et puis, ça oblige aussi à dire qu'est-ce que l'on va faire. Parce que que ce soit au niveau d'une municipalité ou que ce soit à d'autres niveaux. Lorsque vous êtes élu pour quelque chose, vous devez le soutenir, vous devez le tenir, vous devez le tenir dans la durée, vous devez faire un certain nombre de choix, vous devez canaliser, pour reprendre l'expression qu'on utilisait tout à l'heure, et c'est aussi un des éléments sans doute qui freine. Il y a bien sûr le rejet de l'efficacité de la politique telle qu'elle a été mise en place et faite depuis de nombreuses années, mais il y a aussi sans doute une forme de crainte à rentrer dans ce système qui certes n'est pas parfait, mais qui oblige à se compter, à canaliser les choses et effectivement à être représenté.
Mais alors, et rappelons une politique quand même qui a tout misé sur les métropoles et qui a abandonné l'aménagement du territoire.
Mais est-ce que c'est pour ça que ce mouvement est devenu, comme au fil des temps, c'est plus qu'une contestation de la politique, c'est une contestation de l'ordre, c'est une contestation de l'autorité, c'est une contestation du parlementarisme. Ça va au-delà quand même du refus de la structuration. On est quand même dans un pas qui est bien au-dessus, Edouard Le Serre.
Il y a une bien sûr, on conteste le parlementarisme. En tout cas pour certains, et pour d'autres, la façon dont il est aujourd'hui organisé. Parce que un des éléments qui est le plus fort dans la motivation, c'est la non-qualité de la représentation nationale. La non-qualité, que ce soit dans son expression, mais ce soit aussi dans la manière dont on se compte. C'est vrai que la volonté de pouvoir avoir plus de proportionnel, avoir l'ensemble des forces politiques représentées, c'est un élément qui est mis en avant. Et puis il y a aussi cet effet de fréquence, et le référendum serait un moyen, effectivement, de manière plus régulière, peut-être plus locale, de pouvoir exprimer ça de manière régulière.
Bonsoir à Bernard. Soyez le bienvenu, bonsoir. Bernard. On vous écoute.
Oui. Mais écoutez, les gilets jaunes, on a un peu ras-le-bol. Déjà, ils nous ont coûté très très cher pendant les périodes des fêtes, avec leurs manifestations. Et ils prétendent défendre les petites gens, et en fait, il n'y a aucun responsable. Ils ne sont pas fichus de nommer... les gens, d'ailleurs la personne qui vient de parler vient justement de le dire, de donner des responsables, peu importe la quantité, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais à qui on puisse s'adresser et répondre que, eh bien, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. On a compris qu'il y avait un problème. On était pour, d'ailleurs, au départ. Mais là, ça dure trop longtemps et c'est une gêne. C'est une gêne de tous les jours. Voilà.
Merci, Bernard. Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend, Edouard Le Serre, ça, dans vos études d'opinion, en avançant? Parce qu'on a l'impression que c'est là que je disais que le mouvement était devenu contestataire de l'ordre, contestataire de l'autorité, contestataire de tout, et qu'au fond, est-ce que Bernard, là, arrive à parler aux gens qui manifestent? C'est pas sûr, au fond. Encore une fois, c'est pas le même monde.
Non, à ceux qui continuent de manifester, c'est compliqué, même si, on le voit bien dans les études d'opinion, pour passer des 70% de soutien aux 50% de soutien, vous avez un certain nombre de catégories qui ont effectivement un tout petit peu retenu aujourd'hui le soutien qu'ils avaient autrefois. Ils l'ont retenu pourquoi? Pas forcément parce que ils ne sont plus d'accord avec leurs revendications, même si elles prennent des expressions particulières, mais ils sont aujourd'hui plus en retrait parce que les modes d'expression, la façon dont effectivement s'agrègent ou s'expriment, ou ceux qui expriment aujourd'hui au nom des Gilets jaunes un certain nombre de choses ne représentent plus ce qu'était l'idéal de départ ou ce qu'étaient les intentions de départ. Pour autant, il faut bien avoir en tête que demain, et on en parlait tout à l'heure, à l'issue du grand débat, si les solutions qui sont mises en avant, si un certain nombre de préconisations ou de propositions sont mises en avant et ne correspondent pas du tout à ce qu'attendent les Français, en tout cas ceux qui exprimaient et ceux qui soutenaient, eh bien ce soutien ou cette opposition à la sortie, eh bien sera aussi forte qu'était le soutien aux Gilets jaunes dès le départ.
Yvan Lubarneski, est-ce que chez vous, à votre échelle, un dialogue entre Bernard et d'autres, ça existe, ça arrive et ça se passe bien, en fait, désormais, maintenant que le temps a passé?
Ça se passe bien. Quand il y a les débats, ce qu'on voit, c'est qu'il faut reconstruire du rapport de force en dehors de la rue, justement. Et donc, il y a plein de possibilités pour cela. Probablement que le gouvernement en a, en écoutant les corps intermédiaires, et notamment les conseils municipaux, les syndicats, les associations, tous ceux qui regardaient un petit peu les trains passer depuis quelques années, et finalement, Emmanuel Macron n'avait pas beaucoup changé de méthode en la matière. Là, il faut vraiment un changement de méthode très très fort pour cela. Et reconstruire aussi la démocratie, ça passe probablement, même si c'est pas encore identifié à l'heure où on parle, parce que c'est dans un an les municipales, mais ça passe par se réinvestir dans la vie locale, dans des tas de choses que l'on peut construire au quotidien, et quelquefois avec plus de marge de manœuvre que d'enchaîner les COP 24, 25, 26, notamment sur la transition écologique d'ailleurs. On est prêt, en tout cas, Vanik Berberian, qui a été reçu par Elisabeth Borne, justement sur la question de mobilité, de transition écologique également, a dit que le réseau des maires ruraux de France était prêt à consacrer, s'il avait plus de dotations, uniquement à la transition écologique, toutes ces fonds que l'État pourrait apporter au territoire.
Mais voyez, je vous entends, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont sur la table et qui, indépendamment même de l'enveloppe qui a été celle d'Emmanuel Macron, indépendamment même du grand débat, il y a des choses qui sont sur la table et pourtant, il y a toujours des manifestations le samedi, il y a toujours des manifestations qui sont de plus en plus difficiles, qui, encore une fois, parlent de défier l'autorité, etc. Donc, on a l'impression que ce fil a été rompu, y compris avec vous, en fait, non ?
Il faut reconstruire du dialogue et du contre-pouvoir. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait, il y a le mot contre dedans. Mais la production de lois, le fait de faire avancer un pays, c'est le faire avancer avec l'ensemble de ses acteurs. Il y a des gens qui ont été laissés complètement sur le côté, voire même qui ont été abandonnés, voire même quelquefois sacrifiés par des politiques de l'État. Aujourd'hui, il faut reprendre, au-delà du débat, il faut reprendre corps avec la population. Et il y a des outils qui sont à la disposition du gouvernement pour y travailler. D'abord, il y a des structures qui existent et qui n'étaient pas suffisamment écoutées. Et puis, il faut que le citoyen l'identifie. Il ne faut pas qu'on en reste à un rapport de force qui ne s'exprime que dans la rue.
Et alors, je ne sais pas si on vous entend là-dessus et si un discours comme celui-là peut avoir prise désormais sur les gens qui sont encore et qu'on entend tous les samedis. Édouard Le Serre, le sondeur que vous êtes, voit au fur et à mesure quoi ? Un mouvement qui finalement finira par tomber tout seul, en quelque sorte. On verra ce qu'il en restera après, effectivement. Les grands débats, c'est une autre histoire. Mais dans la rue, est-ce qu'on voit finalement un mouvement qui finira avec de moins en moins de monde et un samedi après l'autre? Qu'est-ce qu'on voit, en
fait? Remarquez que depuis le début, la proportion entre la proportion de soutien des Français à l'égard du mouvement et le nombre de personnes dans la rue
est assez proportionnelle.
Non, est très disproportionnée par rapport à d'autres éléments. Est très disproportionnée. Vous avez toujours un soutien d'un Français sur deux.
Le soutien est toujours très haut par rapport au nombre de gens qui sont dans la rue.
Oui,
c'est vrai.
Par rapport au nombre, numériquement. Souvenez-vous des grèves pour d'autres éléments. Il y avait beaucoup plus de monde dans la rue et beaucoup moins de soutien de l'opinion. Donc là, c'est un élément très important. C'est vrai que l'on disait tout à l'heure, un des effets, un des contre-effets aussi de ce qui se passe, c'est aussi un effet d'aveuglement. C'est-à-dire que toutes les initiatives qu'il peut y avoir au niveau local, etc., on a tendance aussi à ne plus les voir derrière cette grande lumière jaune.
Et oui, c'est vrai. Alors, je vous renvoie à la journée spéciale de France Inter qui aura lieu vendredi autour de ces thèmes et le 18-20, notamment de Claire Servargeon qui sera à Saint-Etienne et reparlera de tout ça.